des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, en public, une rencontre entre deux écrivains qui viennent de deux univers très très différents, mais qui ont pour point commun d'avoir eu tous les deux à quitter leur milieu, leur famille, leur île, pourrait-on dire d'ailleurs, au propre comme au figuré, pour devenir les écrivains qu'ils sont devenus. D'un côté, Armistead Maupin, le légendaire auteur des chroniques de San Francisco, et de l'autre, Dany Laferrière, le non moins légendaire académicien venu de Port-au-Prince, en Haïti. Bonjour Armistead Maupin.
Bonjour.
Je salue aussi Marguerite Capel, qui sera votre interprète durant cette heure. Bonjour Marguerite.
Bonjour.
Alors je le disais, Armistead Maupin, vous êtes l'auteur mondialement fêté des chroniques de San Francisco qui ont commencé à paraître d'abord en 1976 dans un quotidien, le San Francisco Chronicle, avant de connaître un succès immédiat en volume. Vous y racontiez l'arrivée de la jeune Mary Ann, jeune femme un peu naïve, à San Francisco en pleine libération sexuelle, dans la pension tenue par Madame Madrigal, libraire à la retraite cultivant elle-même sa marijuana et abritant sur Barbary Lane des pensions venu de tous les horizons, dont Michael Tolliver, alias Mouse, le jeune homosexuel qui est intérimaire quand commence l'histoire et qui va devenir évidemment le personnage principal de cette épopée. Il y avait aussi Brian, l'ancien avocat 68ard, très séducteur, Mona, conceptrice, rédactrice bisexuelle, et puis Monsieur Alcyon, sa fille Didi, dont le mari couche avec son gynécologue, le fameux John Fielding, qui a du mal à assumer son homosexualité, et qui est lui aussi l'un des personnages clés de cette série de 9 volumes, adaptée aussi en comédie musicale par le chanteur des Scissor Sisters, et à l'écran sous forme de série. Qu'avez-vous ressenti, Armistead Maupin, en découvrant vos personnages à l'écran ?
I was delighted because we had.
Ça m'a fait énormément plaisir, en fait. J'ai eu beaucoup de chance.
From the beginning, in terms of the theatrical adaptations.
Depuis le début, en termes d'adaptation théâtrale de mon œuvre, j'ai eu beaucoup de chance.
The actress Laura Linney, for instance.
Laura Linney, par exemple, qui est actrice.
This was her first major appearance
anywhere. Ça a été son premier grand rôle.
And she's coming back on Netflix.
Et elle revient sur Netflix cette année.
To play that character at the age
pour
of 53.
Jouer à nouveau ce personnage qui aura 53 ans.
But the only thing I care about is the fact that she named her baby after me.
Mais ce qui me touche vraiment en réalité, c'est qu'elle a nommé son bébé d'après moi.
Vous l'avez dit, Netflix prépare une nouvelle adaptation de vos chroniques. Vous êtes le producteur exécutif, c'est comme ça qu'on dit.
Yes.
Mais vous n'en êtes pas le scénariste. Je crois qu'il y avait Michael Cunningham qui était au début, qui travaillait dessus. Pourquoi vous n'allez pas jusqu'à scénariser, au fond, cette série ?
Good question.
C'est une bonne question.
I wanted some fresh ideas.
Je voulais qu'il y ait des idées neuves pour l'histoire. Je voulais qu'il y ait plus de diversité raciale dans cette histoire.
Oui, parce que c'est quelque chose qu'on vous avait reproché un petit peu dans la première adaptation, que ce n'était pas justement divers de ce point de vue-là.
Oui, il y a des gens qui m'ont dit ça. Que j'étais un petit jeune homme du Sud quand j'ai commencé à écrire les chroniques. J'avais peur d'écrire des personnages d'une autre race ou d'une autre culture parce que j'avais peur en fait d'avoir l'air un peu idiot, que ce soit un peu vaniteux. Ça m'a pris un moment pour comprendre qu'il faut simplement aller à la rencontre de l'humanité de son personnage et qu'en général, on tombe juste. Mais je suis plus âgé maintenant, j'ai 74 ans.
Vous ne les faites pas. Hein.
Et je ne sais pas tout.
Was that a compliment?
Yes.
Oui, c'était un compliment.
And we have transgender characters.
Nous avons des personnages transgenres.
In it, besides Mrs. Madrigal.
En plus de Madame Madrigal.
Young trans man, Hispanic trans man. So we
brought un jeune homme trans hispanique. Donc on a ramené dans l'équipe des gens qui connaissaient cette vie-là, qui avaient ce type d'expérience pour pouvoir écrire le scénario. Il y a 10 personnes dans la salle où on écrit le scénario et c'est une expérience très excitante de partager ça avec eux.
And the woman who's the showrunner.
La femme qui réalise le programme,
Orange is the New Black.
C'est elle qui a écrit la série Orange is the New Black.
Elle se passe dans une prison de femmes.
She married The beautiful African-American character in that show.
Le magnifique personnage afro-américain très belle dans la vraie vie. Le personnage qui s'appelle donc Poussé.
So we've brought all sorts of experience to that.
Donc on a voulu faire venir des gens avec toutes sortes d'expériences et faire venir ces expériences dans l'histoire.
Donc en fait, vous n'écrivez pas directement mais vous supervisez quand même ce pool d'écrivains.
I have the power of veto. Voilà.
Oui, et j'ai le pouvoir d'imposer mon veto.
Alors, vous publiez en France Mon autre famille aux éditions de l'Olivier, traduit par Marc Anfreville, qui est le récit de l'affirmation, un récit autobiographique de l'affirmation progressive d'une homosexualité difficile à assumer lorsqu'on était né comme vous dans une famille conservatrice du sud des États-Unis. Et c'est aussi cet aspect autobiographique qui fait qu'on a trouvé intéressant de vous réunir avec Daniela Ferrière, qui lui publie chez Grasset Autoportrait de Paris avec chat et surtout avec dessin, Daniela Ferrière. Un autoportrait qui a évidemment une forte dimension autobiographique. Bonjour Daniela Ferrière.
Bonjour.
Vous étiez à Marseille hier au festival Haut les Beaux Jours, au Théâtre de la Criée. Vous êtes née à Port-au-Prince, en Haïti. Vous vivez, alors j'allais dire vous vivez à Montréal, mais vous vivez partout aujourd'hui.
Ben je vis souvent dans un avion. Et je ne sais pas pourquoi, c'est toujours 17B, et je vis dans une chambre d'hôtel.
C'est votre adresse, 17B dans l'avion. Donc partout, mais vous vous prétendez toujours un écrivain japonais, je me souviens que c'était le titre d'un de vos livres, Je suis un écrivain japonais, ou ça s'est resté, ou vous avez renoncé à la nationalité japonaise comme écrivain?
Ah ben, je renonce à toute nationalité comme écrivain, puisque être écrivain, c'est vivre dans un espace qu'aucun agent d'immigration ne peut retrouver. Puisque c'est sortir de soi, c'est passer par la fenêtre, et je peux dire, de l'imaginaire, comme être lecteur aussi, précisément. On lit pour ne pas rester à l'endroit où l'on est, même si visiblement le corps du lecteur est dans un endroit, disons, déterminé. Mais lui, il est ailleurs, l'écrivain est ailleurs, et je ne vais pas donner l'adresse où ils sont.
En tout cas, voilà, 17B, on a retenu pour vous, Daniela Ferrière. Primédicis pour l'énigme du retour, vous êtes aussi capable de titres bien plus décoiffants que l'énigme du retour. Cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit? Hiroshima, ou l'art presque perdu de ne rien faire, magnifique titre, ou évidemment le premier, fracassant, comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer? Vous appartenez...
Vous savez, les titres qui apparaissent éclatants ou brillants et cachent souvent de mauvais livres. Et les grands écrivains, ce sont ceux qui sont capables d'appeler leur roman l'espoir, comme Malraux.
Oui, c'est ça.
Mais je n'en suis pas là, il me faut trouver des titres qui frappent le lecteur.
Ou l'espoir sans se fatiguer, par exemple, ce serait pas mal. Alors, vous appartenez de surcroît à ce que Jules Renard appelait le commun des immortels, puisque la vénérable Académie française vous a accueilli sous la coupole en mai 2015, au fauteuil occupé par Montesquieu. L'Académie française s'est jetée sur toi comme la pauvreté sur le monde, vous avez d'ailleurs dit Jean d'Ormesson le jour de la remise de votre épée. Et vous êtes aujourd'hui de retour avec un livre qui nous montre que vous avez d'autres talents que celui d'écrire, puisque cet autoportrait de Paris avec chat est un livre entièrement écrit et dessiné à la main, et je dis écrit aussi à la main, c'est-à-dire que jusqu'au nom de l'éditeur, à la table de matière...
Il n'y a que le code barre qui ne soit pas...
Voilà, il n'y a que le code barre, exactement. Vous auriez pu d'ailleurs presque faire un effort. Alors, vous y fêtez dans ce livre Paris, finalement nouvelle ville, vous en croquez les scènes de quartier, de la soupe populaire distribuée en bas de chez vous au chat imaginaire qui vient rendre visite à l'écrivain. D'écrivain, il est d'ailleurs beaucoup question, on croise ceux d'aujourd'hui, comme Mabankou par exemple, mais ceux d'hier, Montaigne, Borges, Sagan, Hemingway, Malraux justement, l'auteur de l'espoir dont on parlait. Mais il n'y a pas que des écrivains qui sortent de votre boîte à crayons, il y a des villes, Port-au-Prince, Montréal, où vous avez écrit votre premier roman sur votre mythique Remington, des baisers aussi volés dans des taxis, du jazz, des couleurs, et un certain nombre de leçons dont on tirera profit. Comment faire ce qu'on ne sait pas faire? Vous le dites à propos du dessin. Est-ce que ça ne serait pas, Daniela Ferrière, une phrase aussi que peut se dire tout écrivain quand il commence à écrire ce qui sera peut-être son premier roman ou son premier poème et qui ne sait par définition pas faire quand il commence?
Ah, pas seulement au début, et tout le temps, jusqu'à la fin. Et sinon, il perd toute sa fraîcheur d'écrivain s'il croit, disons, avoir un certain pouvoir sur l'imaginaire. j'ai écrit et j'ai dessiné dans ce livre en espérant qu'une absence de talent, et celui de dessinateur, puisse être un peu équilibré par celui de l'écrivain. Et nous faisons ça, nous avons deux jambes pour marcher, nous savons dessiner, nous savons écrire, pourquoi ne pas faire les deux dans un même livre?
Vous avez songé à dessiner Armistead Maupin?
Je trouve que c'est une idée géniale. Mais il faut être très audacieux. J'aimerais bien essayer un jour.
Pour San Francisco, ça serait pas mal, hein, aussi bien que Paris.
Ben oui, tout à fait, et d'autant plus qu'il est tout à fait audacieux. On l'a vu, du moins dans ses mémoires, que je lis en ce moment.
Alors, bienvenue à tous les deux dans cette émission. Par leur dimension autobiographique, par leur appel à la mémoire aussi, vos livres ont beaucoup en commun, même si sur le papier, c'était pas forcément écrit. Ils ont aussi en commun de nous faire voyager dans l'espace, dans les lieux qui ont forgé leurs auteurs, fait qui ils sont aujourd'hui, dans le temps aussi, dans d'autres livres, les livres qui ont fait de vous aussi des écrivains. Mais ce qui m'a frappé en fait en regardant, en lisant vos livres et en me disant « tiens, je vais les réunir ces deux-là », c'est qu'on a l'impression au fond que ce voyage qui vous amenait l'un et l'autre à l'écriture, il est passé par un autre point commun, c'est-à-dire qu'il a fallu que vous arrachiez à votre famille, à votre lieu d'origine, de façon choisie pour vous, Armistead Maupin, ou de façon contrainte pour vous, Dany Laferrière. Et je voulais vous poser la question et commencer par ça avec vous, Armistead Maupin. Vous avez longtemps essayé de cacher votre sexualité, surtout à votre père. Votre mère s'en doutait, mais il était extrêmement difficile d'aborder la question frontalement. Et vous avez même voté pour Jesse Helms, qui était le sénateur conservateur de la région où vous étiez, qui s'opposait aux droits des homosexuels. Et en fait, vous expliquez que vous avez travaillé avec lui dans l'espoir aussi que ce secret se libère et que vous puissiez vous venger finalement atrocement de lui.
J'avais pas une intention si noble en travaillant avec lui.
Really, what happened was,
ce qui s'est passé vraiment, c'est que c'est la ville de San Francisco qui m'a libéré. Les hétérosexuels de San Francisco étaient beaucoup plus à l'aise avec moi que je ne l'étais moi-même. La première personne à qui je l'ai dit, une femme qui avait deux bébés, un jour j'étais un petit peu bourré et je lui ai dit, il faut que je te dise quelque chose, je suis homosexuel. Elle m'a regardé très sincèrement et elle m'a dit, et alors, qu'est-ce qu'on en a à foutre?
That's the way it was for
et c'était comme ça pour les gens à San Francisco, il n'y avait pas de raison d'en faire toute une affaire.
Je crois qu'à San Francisco, il fallait lui dire le contraire. Vous savez, je ne suis pas homosexuel.
Exactement. Montréal.
Ou à Montréal.
Pretty great.
C'est une super ville aussi.
Non, mais on se ressent parce que, précisément, moi aussi, j'ai quitté à cause de ma sexualité débordante.
Ah, c'est ça la vraie histoire, en fait.
Mais oui, parce que ma mère est quelqu'un d'assez pieuse. Et, vous savez, il n'y a pas que... qu'une sexualité qu'on peut cacher, c'est une sexualité qui était trop ouverte. Oui. Et je me souviens, il était impossible d'avoir une relation sexuelle normale en Haïti parce que Port-au-Prince est une ville surpeuplée et pour une superficie assez restreinte. Et dans la maison où je vivais, où il y avait 36 personnes qui dormaient, ma tante Raymonde, qui était une femme mariée, pour faire l'amour avec son mari, devrait nous envoyer tous au cinéma. Et comme c'est quelqu'un qui avait un budget très, très restreint, et ce qui fait qu'elle a eu deux enfants.
Quel est le sens de cette famille, mon autre famille, qui sert de titre à ce récit de jeunesse, Armistead Maupin?
C'est une phrase que j'ai inventée pour un roman il y a environ 10 ans. Madame Madrigal, pour ceux qui sont familiers du personnage, donc la propriétaire qui est de la pension au centre de mon histoire, elle discute avec un homme qui est gay, qui a des soucis avec sa famille, qui reste en Floride, et elle lui dit, ne t'inquiète pas, tu as ta famille biologique, mais tu as aussi ta famille logique. Ce qui veut dire la famille qui a du sens à tes yeux. Et c'est moi, c'est ça que je défends en fait. Il faut arrêter de se torturer au sujet des personnes qui vous ont donné la vie. Choisissez les gens qui vous conviennent.
And sometimes the family will come along.
Parfois, la famille suivra, la famille biologique se rapprochera, et parfois ce ne sera pas le cas. J'ai des membres de ma famille qui sont encore choqués parce que je suis, par le simple fait que je sois homosexuel. Ça horrifie encore mon petit frère. Mais je suis beaucoup plus célèbre qu'il ne l'est maintenant. Donc je peux dire, regardez ma vie, en fait, mener une belle vie, c'est la meilleure revanche possible.
Daniela Ferrière.
Qui sont bien et que nous aimons et qui nous aiment ne sont pas forcément de bons personnages. Les meilleurs personnages de votre livre, c'est votre père, par exemple, avec son caractère particulier, c'est un caractériel. Et les gens qui ne nous aiment pas font de meilleurs personnages dans nos romans.
Difficult fathers are a gold mine.
Les pères difficiles, c'est une véritable mine d'or pour les écrivains.
Et moi, j'ajoute aussi qu'on devrait donner 10% de droits d'auteur à nos mamans, parce que dans votre livre, vous citez souvent votre mère.
Yes, I loved my mother.
Oui, j'adorais ma mère.
And I wish my mother had sent me to the movies.
Et j'aurais bien aimé que ma mère m'envoie au cinéma, elle.
With another boy.
Avec un autre garçon.
Évidemment. Il y a cette phrase dans Mon autre famille, donc qui retrace votre parcours de la Caroline du Nord, donc dans le Sud, hein, même si c'est la Caroline du Nord, ça reste le Sud des États-Unis. Vous avez grandi à San Francisco, qui est donc la ville qui va vous permettre de vous affirmer dans votre sexualité et puis dans votre identité totale et de faire de vous aussi un écrivain. Et vous déclarez dans Mon autre famille, après une vie entière de faux-semblants étouffants, je partais enfin à ma propre rencontre à San Francisco. Est-ce que ça s'applique à vous aussi, Daniela Ferrière, qui avait dû quitter Haïti dans des conditions... Alors là, vous nous avez présenté un autre scénario, hein, moi je veux bien aussi y croire, mais moi ce que je savais, Dani, c'est que c'était après la mort d'un de vos amis tué par les tontons Macoutes, donc les hommes de main du dictateur Duvalier, et vous avez dû quitter l'île clandestinement. Je crois qu'il y avait seulement votre mère en fait qui savait que vous partiez.
Oui, absolument. Mais vous savez, il y a deux voyageurs en nous. Il y a celui qui est forcé de quitter son pays, et soit pour sa sexualité, différente de celle des autres, et soit aussi pour une situation politique compliquée comme le fait de vivre dans une dictature. Mais il y a aussi quand même, il faut pas l'oublier, et maintenant que beaucoup de gens voyagent dans le monde, le voyageur en nous. Nous sommes tous des voyageurs, nous sommes des êtres en mouvement.
17B.
Et voilà. Et quand on me présente uniquement comme quelqu'un qui quitte son pays à cause de cette situation particulière politique, ce qui est vrai, mais il ne faut pas oublier que je suis un voyageur, comme n'importe quel Français qui va à New York, n'importe quel Italien qui va au Sénégal, n'importe quel Sénégalais qui va à Berlin. C'est-à-dire, les humains sont divisés vraiment en deux grands groupes, les sédentaires et les nomades. Et parce que sinon, on va juste recouvrir le monde d'individus politiques un peu poursuivis par la dictature ou d'homosexuels qui doivent... Nous sommes d'abord des voyageurs.
Il y a le départ, hein, on en a parlé, le départ de chacune de vos familles, mais aussi le retour qui occupe une place extrêmement importante dans vos écrits respectifs. Par exemple, Daniela Ferrière, après avoir été élu académicien, votre premier réflexe a été de rentrer en Haïti, votre pays d'origine. Je vous cite d'ailleurs, hein, le voyage sous les eaux, je rentre à Port-au-Prince afin de comprendre ce qui m'arrive. Et on retrouve cette citation de Borges dans votre livre. On nous dit qu'Ulysse, fatigué de merveille, sanglota de tendresse en voyant son Ithaque modeste et verte. Et vous, Armistead Maupin, vous dites qu'il vous a été essentiel de rentrer adulte dans votre maison d'enfance, mais d'y inviter un amant pour vous réapproprier les lieux. Comment expliquer chez les écrivains que vous êtes cette puissance des lieux qui, malgré toute la liberté dont on peut user, finalement nous attache, nous rattache, nous lie un peu malgré tout à ce lieu d'origine? En fait, pourquoi Ulysse a-t-il besoin de revenir?
I am especially. I fall in love with cities.
Moi, je tombe amoureux des villes.
I lived in Charleston, South Carolina.
J'ai vécu à Charleston, en Caroline du Sud, avant de déménager à San Francisco. C'est une ville magnifique. C'est très stimulant pour l'imagination.
And I didn't leave like you. I didn't leave.
Et je ne suis pas parti comme vous, Danny.
I didn't leave San Francisco. I wasn't driven out of town by people with torches saying, "Homo."
quitter la ville parce que des gens me pourchassaient avec des torches en me disant « homosexuel, tu dois partir ». J'avais simplement l'impression que les choses seraient mieux ailleurs. J'avais vu San Francisco en allant au Vietnam, j'étais passée par là, à l'aller au retour quand j'étais dans la marine. Et j'avais trouvé cette ville magnifique.
Wedding,
et puis je suis allée à un mariage hétérosexuel.
Voilà, je suis un obsédé sexuel, il est un obsédé homosexuel.
I am very obsessed with homosexual sex.
Moi, je suis très obsédée par le sexe homosexuel. C'était un homme hétéro qui s'aperçoit que je reviens du Vietnam et il me serre dans ses bras. C'est un étranger et il me dit « Je suis tellement content que tu sois en vie ».
Loving spirit of that
et c'était
city.
Cet esprit d'amour qu'il y avait dans cette ville. Et c'était plus attirant que toute nuit éphémère avec un homme, ce
oui,
moment-là.
Mais sur l'idée du retour, parce que vous avez eu besoin de revenir finalement dans votre maison du Sud avec un amant pour se réapproprier les lieux. Comme finalement, Dani, vous êtes revenu aussi en Haïti. Et en fait, je me suis toujours posé cette question, même, vous en parliez,
pourquoi
vous parliez d'Ulysse et Borges citait Ulysse. Pourquoi Ulysse revient? Pourquoi le romancier qui est un être libre revient? Voilà.
Les témoins. On a des témoins. Vous savez, quand on voyage, long voyage peut créer chez nous un goût de refaire nos origines. Et nous devenons un écrivain, parfois, dans ce cas-là. Mais il y a des témoins qui peuvent juger de ce que nous disons. J'ai une de mes tantes, par exemple, tante Raymonde, et quand elle a mon livre, j'ai retrouvé d'ailleurs à sa mort, j'ai repris tous mes livres, qui sont les seuls de mes livres que je garde chez moi, ce sont les livres de tante Raymonde annotés « Menteur, chenapan » et « Bravo mon neveu, extraordinaire, salaud, et minable, misérable, magnifique » et chaque page... Et c'est le témoin.
Elle annote vos livres, en fait.
Oui,
ça.
Tous les livres, mais rageusement. Et c'est le témoin. Et c'est le témoin capital. C'est-à-dire, c'est l'une des seules personnes qui peuvent me contredire dans mon récit de mon enfance.
Ouais. Et ça, c'est important.
C'est
Il faut
fondamental.
Avoir un contradicteur.
C'est fondamental, ce contradicteur-là.
Vous êtes d'accord, Armistead Maupin? On a besoin de contradicteurs, des gens qui vont presque annoter de façon physique, comme Tante Raymonde, ou immatériel, ou presque fantasmatique aussi, pour vous, dans le regard de l'écrivain. Si je continue à les énerver, c'est que je fais ce qui est juste.
Oui, c'est ça.
Il faut
comprendre que je viens d'une famille. Mon jeune frère a voté pour Trump. C'était une honte. Dans mon université récemment, j'ai été honoré en raison du contenu LGBT de mon travail, de ma vie. Mon frère avait trop honte pour venir à la cérémonie. Il avait en deux mois. Mais je veux toujours qu'ils voient, en fait. Ce sont des témoins, c'est tout à fait le mot juste. Je suis convaincu que si ma mère avait vécu assez longtemps, elle aurait approuvé la carrière que j'ai faite, mais je ne le saurais jamais.
Dans ce livre d'Armistead Maupin, il y a une scène extraordinaire. Son père est dans l'église avec toute la famille, et à un moment donné, le prêtre dit quelque chose d'assez banal pour la Caroline du Nord. Il dit qu'on ne devrait pas laisser les Noirs dans l'église, enfin, quelque chose comme ça. Le père se lève, prend toute sa famille et sort de l'église. Mais cette scène, qui est vue par Armistead Maupin comme une scène un peu raciste, mais les Français, qui sont souvent athées et qui ont été des mangeurs de curés, ont vu un homme qui s'est levé et a cassé le discours d'un prêtre. Donc c'est un héros pour les gens qui ne sont pas du tout des gens d'église. C'est ça qui est souvent dans ce livre. Chaque fois que Armistead Maupin dit une chose, moi je lis autre chose.
I was actually embarrassed for my father.
En fait, j'ai eu vraiment honte pour mon père cette fois-là, parce qu'il pensait en fait qu'il allait prendre la tête de toute une procession de blancs et que tout le monde allait quitter l'église. Et en fait, on est la seule famille à être sortie de l'église.
I felt really bad for him.
Et donc vraiment, je me suis sentie très triste pour lui parce qu'il était complètement humilié. Il s'était auto-humilié.
It's shocking to me now.
C'est choquant pour moi maintenant de réaliser que j'ai vécu ça, en fait, et que c'était quelque chose d'ordinaire pour moi. Il était extrêmement raciste, mon père, même à l'époque.
I remember going through Miami Beach one time.
Je me souviens à Miami Beach une fois avec ma famille. Mon père regardait des vieux juifs qui marchaient dans la rue et il s'énervait.
And he said Hitler had the
right
idea.
Il était complètement enragé et il disait Hitler avait vu juste.
I had no way to square that with the man that I was supposed to admire.
Je ne pouvais pas faire coller ça avec l'homme que j'étais censé admirer.
Bon, c'est moi un héros.
I haven't told that story on this book tour at all until now.
Je n'ai jamais raconté cette histoire d'ailleurs en défendant ce livre jusqu'à aujourd'hui.
Quand vous ne vouliez plus faire votre cours de droit, vous ne vouliez plus être avocat, vous êtes allé le voir. Vous lui avez dit que tout cela vous ennuie. Il vous a dit, ce n'est pas grave, je n'attendais pas moins de trois. Et vous avez vu, c'était un homme tendre aussi, parce que vous saviez très bien qu'il adorait son métier d'avocat.
Il essaie de réhabiliter votre père.
C'est gentil de vous souvenir des bonnes choses au sujet de mon père.
C'est ça un personnage de roman.
Je voudrais vous interroger, Mr. de Maupin, sur une phrase, en fait, une très belle phrase, c'est un jeu de mots, en fait, en français, sur la notion d'exil. Dany Laferrière dit « Si le fait de punir est une punition... » En fait, c'est un chauffeur de taxi qui vous dit ça, Dany.
Oui,
« Si le fait de punir est une punition, pourquoi le fait de partir ne serait pas une partition ?» Mais ce que ça veut dire, c'est d'être divisé, d'être coupé en deux, finalement. Est-ce que vous vous êtes senti, au fond aussi, dans la position d'un exilé, vous qui avez dû quitter justement un milieu hostile, comme Dany Laferrière, hostile à votre développement en tant qu'être humain, est-ce que vous vous êtes senti un peu comme un exilé ?
Non. I was glad to be gone.
Non, j'étais content de partir.
I was learning things about myself,
je découvrais
about my
des choses sur moi, sur... Mon âme, mon cœur, que j'avais caché, dissimulé, tu pendant l'essentiel de ma vie. Peut-être de façon inconsciente.
I felt I'd been exiled,
peut-être de façon inconsciente, je me suis senti exilé, mais il y avait des centaines de gens qui m'attendaient, 200 personnes m'attendaient dans la librairie de ma ville natale quand je suis venu avec cette autobiographie, y compris la fille de Jesse Helms, ce raciste d'extrême droite, ce sénateur dont on parlait.
If you achieve a degree of fame, everything is forgiven.
Quand on arrive à devenir célèbre, tout est pardonné.
Et Dany, cette partition, vous la ressentez encore ?
Non, mais j'avais quitté Haïti à 23 ans. C'est pas la même chose qu'un homme de 50 ans ou une femme qui quitte son pays obligé par une dictature. Moi, j'avais devant moi toute l'aventure, tout un monde nouveau qui s'ouvrait. Et j'étais même arrivé à penser que l'exilé, c'était celui qui reste. Je l'ai écrit plusieurs fois. Vous savez, pour moi, le dictateur, c'est lui l'exilé. C'est lui qui est exilé de la vie et de toute l'aventure du monde. Il ne peut pas sortir de son palais, sinon il met le pouvoir en danger. Il se met lui-même en danger physiquement. Il n'a plus de contact avec des sentiments tout à fait simples comme l'amitié. Et il doit surveiller ses arrières. On lui a dit que ses amis seront les premiers, ce qu'on appelle les coups d'État de palais. Et c'est derrière vous que viendra le coup d'État. Donc, vivre dans une situation où, en échange du pouvoir, vous avez tout donné, c'est un peu Faust. Et donc, pour moi, je peux pas croire que ce type a eu la bonne part des choses. Moi, j'avais devant moi tout un monde avec une clé dans ma poche où je pouvais rentrer dans ma maison, dans mon appartement, et n'importe quand et vivre comme je voulais.
Mais pourtant, quand le chauffeur de taxi vous dit ça, vous le notez, on sent que cette phrase, elle vous touche. Cette idée de quand même d'être coupé en deux quand on a dû quitter quand même sa famille, même s'il y avait un dictateur lui-même exilé.
Ah oui, quand même, bien sûr. Et bien sûr que parfois, ce que je m'étais dit à propos du dictateur, je voyais très bien aussi, c'est des fleurs de rhétorique aussi. Ce qu'il faut comprendre dans la vie, d'après moi, un vieil académicien vous parle en ce moment, c'est que...
On vous appelle immortel en Haïti.
Quelle que soit la situation, vous n'échapperez pas aux angoisses. Et seulement, vous les nommez à partir de votre situation. Vous dites, je suis angoissé parce que je suis exilé. Vous dites, je suis angoissé parce que j'arrive pas à écrire mon roman. Je suis angoissé parce que, et d'ailleurs, il y a cette phrase magnifique. J'ai été tous les hommes, sauf celui dans les bras duquel défaillait Mathilde. Je suis embrassé parce que Mathilde ne m'aime pas. Mais vous pouvez trouver la raison de vos angoisses, vous en aurez toujours.
On va continuer avec vous, Daniela Ferrière, et vous, Armistead Maupin. On écoute d'abord votre choix musical, Armistead Maupin. Vous avez choisi Moon River dans la version que Audrey Hepburn chante dans Breakfast at Tiffany's. On écoute.
In style someday, old dream maker, you heart breaker, wherever you're going, I'm going your way to drift. See the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend. Very friend, Moon River and me.
Splendide. Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany's.
I must say, I loved her so much. I was 17 years old.
J'étais tellement, je l'adorais. J'avais 17 ans.
I thought I was straight.
J'ai même pensé que j'étais hétéro tellement je l'aimais.
Ah oui, straight, c'est vrai, straight. La voix qu'on entend, c'est celle d'Armistead Maupin. Voilà, c'était son choix musical. Il est avec nous, l'auteur légendaire des chroniques de San Francisco, et avec le légendaire Daniela Ferrière aussi. On est en public pendant ce temps des écrivains. Ce choix musical, Armistead Maupin, donc vous dites c'est finalement lié à une possible transformation à laquelle vous avez pensé. À un moment, est-ce que vraiment je suis...
I was making a joke, really. Just a joke.
Non, c'était une blague.
I was really in love with George Peppard.
En fait, j'étais plutôt amoureuse de son partenaire masculin quand il n'avait pas sa chemise.
Très bien.
Les choses sont claires. That story has a gay origin.
Mais cette histoire a une histoire gay, en fait, au départ. Truman Capote a écrit cette histoire de Breakfast at Tiffany's.
He's the George Peppard character.
Et donc, c'est lui, le personnage de George Peppard.
But it was completely heterosexualized for
C'est devenu en fait une histoire hétérosexuelle pour le film.
And,
on l'a transformé.
I still could feel it.
Et je sentais encore, je crois, ce qu'il y avait derrière.
Vous publiez, Armistead Maupin, Mon autre famille, qui est un récit autobiographique. C'est aux éditions de l'Olivier, traduit par Marc Anfreville. On y découvre, vous en aviez un petit peu parlé, mais on y découvre que, et vous le racontez, que vous êtes engagé dans votre jeunesse dans la marine. Vous avez été affecté au Vietnam. Vous dites que vous êtes surtout parti pour faire plaisir à votre père. Et vous revenez sur cette expérience dans votre livre où vous racontez une chose très étrange. Comment vous avez eu l'idée de vous mettre à l'arrière du bateau, le dernier bateau américain à quitter l'Asie, afin d'être le dernier marine américain à le faire? Et en fait, il y a un commandant qui avait eu la même idée que vous et qui voulait lui aussi entrer dans l'histoire de cette façon. Je voudrais savoir en quoi cette expérience militaire au Vietnam a une importance particulière dans ce que vous appelez votre quête de vérité et dans votre choix d'assumer une homosexualité.
L'armée, ça a été important pour moi parce que j'y ai rencontré toutes sortes de gens qui étaient très différents de moi, des gens de différentes races. Et j'aimais la camaraderie qui règne. Je n'ai jamais rien entrepris d'un point de vue sexuel quand j'étais dans l'armée, mais j'ai apprécié la compagnie des hommes.
Jamais.
Pas au Vietnam.
I talk about my first sex in a park.
Je raconte ma première expérience sexuelle dans le parc à Charleston, dans le livre.
But I appropriately enough, I chose the spot where the first shots of the Civil War were fired.
Mais j'avais choisi justement complètement c'était tout à fait approprié l'endroit où les premiers tirs de la guerre de sécession avaient retenti précisément.
Pour cette première expérience.
For this first
voilà.
Experience.
It was funny. It's one more funny
c'est
thing
plutôt
in the
amusant,
book.
C'est encore une de ces choses
donc,
amusantes qu'on trouve dans le livre.
Daniela Ferrière, dans son autoportrait en chat, parle des livres qui l'ont construit en tant qu'écrivain. Ce qui est assez curieux, Armistead Maupin, c'est qu'au fond, dans ce récit, Mon autre famille, il y a assez peu d'évocations d'écrivains qui auraient pu vous construire comme écrivain. Vous parlez de Hardy Boys Mysteries, qui sont vraiment une série pour la jeunesse avec deux frères détectives amateurs, mais finalement, vous passez sous silence l'importance des écrivains.
I have a whole chapter on Christopher Isherwood. Mm.
Oui, exactement.
Un chapitre sur Christopher Isherwood.
Qui vous donne, alors on va le dire, qui vous donne un conseil important.
Yes, he said. I think he sensed
oui,
that I was insecure as a young writer.
Je pense qu'il a senti que je me sentais pas très sûr de moi en tant que jeune auteur parce que mon œuvre avait été pour l'instant publiée dans un journal et donc parfois on donnait l'impression que c'était, ça avait moins de prestige.
He said to me one day, pulled me aside and said,
"Don't forget." Pris à part une fois, il m'a dit, n'oublie pas.
That it's possible to commit art and entertainment at the same time.
Qu'il est possible de faire de l'art et du divertissement en même temps.
And that was a huge relief because
I was. Et ça a été un grand soulagement pour moi.
I knew that I was entertaining people.
Est-ce que je savais que je divertissais les gens?
I was trying to. You know, to create art.
Et j'essayais
as well.
Aussi de créer de l'art.
Mais là, vous parlez de Christopher Isherwood, qui était un écrivain que vous voyez, qui était vivant. Moi, je parlais des écrivains que vous auriez pu lire. Quand Daniela Ferrière parle de Hemingway, parle de Proust, dessine Hemingway, il les a pas connus. Ou alors, vous avez des pouvoirs extrêmement encore plus grands que ceux que je connais, Daniela Ferrière.
Non, c'était pas moi seulement. Qui parlait, c'est un peu la ville de Paris. Et je prenais les écrivains qui emblématiques dans Paris, et même dans des lieux circonscrits, comme Simone de Beauvoir et Sartre, Flore, des choses comme ça, Hemingway, Aude de Magot, et Villon, sur la rue Mouffetard, que j'ai croisé d'ailleurs.
Et vous dites ce qu'ils vous ont apporté. Alors, ce qui est curieux, puisque vous avez lu aussi le livre d'Armistead Maupin, c'est que on serait porté à croire que finalement la lecture n'a pas été si importante que ça pour vous, Armistead Maupin, dans cette construction d'écrivain.
La vérité est vraiment, c'est que ces histoires pour enfants ont inspiré ma façon d'écrire autant que n'importe quoi d'autre.
Isherwood,
je l'adorais avant de le rencontrer.
J'adorais
la simplicité, l'élégance de sa langue.
He's unpretentious.
Il n'est pas du tout prétentieux.
That's not a word I would apply to Hemingway, for
instance. C'est pas un mot, par exemple, que j'utiliserais pour décrire Hemingway.
And little queer boys don't grow up wanting to write like Hemingway.
Petits garçons queer ne grandissent pas en voulant écrire comme un Hemingway.
Mais Hemingway avait un secret, d'ailleurs. Il a fini par se tuer. Il n'était pas si simple que l'homme qu'on voyait. Isherwood a écrit pour moi l'une des plus belles phrases de la littérature anglaise. Et Hemingway disait que tout écrivain doit écrire un jour une phrase vraie. Et Isherwood a écrit « Ma vie est devenue si simple qu'elle ne concerne plus que moi. »
That's a beautiful thing to say.
And that's
exactly him. That's the
Et
way
ça lui ressemble exactement. C'est vraiment comme ça qu'il était.
Armistead Maupin, c'est par l'écriture que vous avez décidé finalement d'assumer votre homosexualité de façon publique. Vous avez choisi l'écriture et vous l'avez assez curieusement annoncé à votre mère par le biais de la fiction, puisque c'est par une lettre signée par votre personnage Michael Tolliver dans le deuxième livre de ces chroniques que vous avez essayé de faire comprendre à votre mère que vous étiez gay. Et je voudrais en lire un passage, parce que c'est une lettre qui a touché et bouleversé des milliers et des millions de lecteurs qui étaient peut-être dans la situation de Michael. « Chère maman, pardonne-moi d'avoir mis tant de temps à vous écrire. Chaque fois que j'essaie, je me rends compte que je ne vous dis pas ce que j'ai sur le cœur. Ce ne serait pas grave si je vous aimais moins que je ne vous aime, mais vous êtes toujours mes parents et je suis toujours votre fils. J'ai des amis qui pensent que je commets une folie en vous écrivant ceci. J'espère qu'ils se trompent. J'espère que leurs doutes viennent de ce que leurs parents les aimaient moins que les miens ne m'aiment. J'espère surtout que vous y verrez un geste d'amour de ma part, le signe que j'ai toujours besoin de vous faire partager ce que je vis. Je suppose que je ne vous aurais pas écrit si vous ne m'aviez pas parlé de votre participation à la campagne « Protégeons nos enfants », une campagne évidemment anti-homosexualité. C'est cela, plus que toute autre chose, qui m'a fait prendre conscience que je devais vous dire la vérité, que votre propre fils est homosexuel et que je n'ai jamais eu besoin d'être protégé de quoi que ce soit, hormis de la cruelle et ignorante piété de gens comme Anita. Je suis désolée, maman, non pas d'être ce que je suis, mais de ce que tu dois éprouver en ce moment. Je sais ce que c'est, car j'ai subi ce sentiment pendant la plus grande partie de ma vie. Répugnance, honte, incompréhension, rejet dû à la crainte de quelque chose que je savais, même enfant, faire partie de moi au même titre que la couleur de mes yeux. Non, maman, je n'ai pas été recrutée. Il n'y a pas eu de vieil homosexuel pour me servir de guide. Mais tu sais quoi ? J'aurais bien aimé. La lettre continue comme ça. Qu'est-ce qui vous a fait vous décider à ne pas prendre votre téléphone, mais finalement à être écrivain jusqu'au bout et à le faire comprendre par la fiction, quoi. Même pas lui écrire une lettre à elle, mais écrire une lettre par la voix de votre personnage dans un livre.
C'était de la lâcheté.
And I knew I could get it exactly right.
Et je savais que je pouvais dire les choses exactement comme il fallait si j'utilisais les mots.
And I knew
si
that
je l'écrivais,
my parents would know,
et je savais que mes parents sauraient.
That, although I was writing in the voice
qu'ils sauraient
of
que
my
même
character,
si j'écrivais par la voix de mon personnage, en fait, c'était bien de moi que je parlais.
I did this to prepare them for
j'ai fait ça pour les préparer parce qu'il y avait un article dans le magazine Newsweek qui me décrivait comme homosexuel.
And so their solution was to leave town.
Et d'ailleurs, la solution qu'ils avaient trouvée, ça avait été de quitter la ville et d'aller faire du cheval jusqu'à ce que le Newsweek ne soit plus en kiosque.
Sauver les apparences,
comme on dit. Quite different today. You'd tweet it and the whole
world. Ce serait très différent aujourd'hui parce qu'il suffirait de le tweeter pour que tout le monde soit au courant.
Oui.
Mais si j'ai bien lu votre livre, votre mère savait bien depuis très longtemps, peut-être même avant vous. Et que vous étiez homosexuel, elle vous l'a fait comprendre par des signes, alors que vous ne pensez même pas lui faire comprendre que vous l'êtes. Et donc, votre mère était bien au courant. Peut-être pas votre père, mais votre mère le savait. De toute façon, on n'écrit jamais publiquement à sa mère. Et je le sais parce que les mères lisent différemment des autres lecteurs. Et quand je dis maman dans un livre, ma mère n'écoute pas. Elle lit exactement quand je parle aux autres, sans penser à elle. Mon premier roman, je l'ai écrit et il y a beaucoup de sexe. Je n'ai pas osé l'envoyer à ma mère, mais en fait, elle n'a rien lu à propos du sexe. Ce qu'elle a lu, c'est que je lui avais dit que j'étais un bon garçon, que je mangeais des carottes pour les yeux, que je buvais du lait, que je dormais 8 heures et que j'allais chez le coiffeur chaque 15 jours, elle m'a écrit « Il n'y a rien de tout ça dans ton livre. » Et tu n'as même pas pris une douche durant tout l'été. Et en effet, c'est la meilleure critique que j'ai eue de mon livre. Et parce que si j'avais eu cette critique-là, j'aurais mis un peu plus de détails physiques, concrets, réels, ordinaires, et mon livre aurait été moins abstrait et peut-être meilleur.
Alors, Mélissène Maupin, le romancier Patrick Gale, qui est l'un de vos plus proches amis, donc qui vous connaît un peu, signalait dans une interview au Guardian que certes, comme beaucoup d'écrivains depuis Flaubert et son Madame Bovary, c'est moi, évidemment, votre œuvre est très liée à votre vraie vie, mais qu'avec vous, la différence, c'est que vous exploriez presque comme un mineur, et je vais le dire en anglais, votre propre vie pour vous procurer du matériel romanesque. Il disait, Patrick Gale, « He so blatantly mines his own life for material. » Qu'est-ce qui explique que vous ayez tant de difficultés à prendre de la distance avec vous-même quand vous écrivez ? Comme s'il fallait d'abord que le feu prenne dans votre propre vie pour que vous puissiez faire démarrer la fiction. Et ensuite, j'ai la même question pour Dani.
I want to thank you, Dani.
Merci,
you, for Dani, reading my work so well,
d'avoir aussi bien lu mon travail et de venir au secours de ma mère.
She gave me
the
book Ferdinand the Bull. Is that something that's familiar?
Elle m'a donné le livre Ferdinand le Taureau. C'est un petit livre pour jeunesse.
Doesn't want to fight in the ring, but wants.
C'est un petit taureau qui ne veut pas combattre dans l'arène.
She knew.
Elle savait.
Adapté en film d'animation.
Depuis le début.
What makes me sad is that she made it her job to hide it from my
father. Ce qui m'a rendu triste, c'est qu'elle s'est donné pour mission de le cacher à mon père.
And I'm sorry that she ever had to waste that energy.
Il consacre autant d'énergie.
Qui revient le plus souvent dans votre livre, ne le dites pas à votre père. il ne pourra pas comprendre.
Don't tell your father should be the name of my memoir.
Ça devrait être le titre de mes mémoires, à vrai dire. Ne le dis pas à ton père.
Oui, et qu'est-ce qui explique que vous ayez autant de difficultés, finalement, à vous décoller de votre propre vie, Armistead de Maupin? Quand vous écrivez, au fond, et tous vos amis le disent, il n'y a presque rien inventé. Vous n'arrivez pas, en fait, à mettre le feu à la fiction avant de la mettre dans votre propre vie?
En fait, j'utilise la fiction pour me sauver la vie, la plupart du temps.
To soften pain.
J'utilise la fiction pour adoucir les peines, les douleurs.
I always tell myself if something really bad happens
to me. Je me dis toujours quand il m'arrive quelque chose de vraiment terrible, s'il m'arrive quelque chose de vraiment terrible, au moins je pourrais l'écrire, je serais capable d'en parler en écrivant.
I'm tired of doing that.
Ça me fatigue. J'en ai marre.
Vous êtes d'accord, Daniel Ferrière? Je voyais opiner.
Dans l'idée vient de Homère. Si les dieux nous envoient des malheurs, c'est pour qu'on en fasse des chants. Mais en même temps, en dehors de tout cela, en dehors du rapport vérité, fiction, réalité, fiction, il y a le fait tout simplement du travail de style. Arriver à prendre quelque chose qui est un matériel de vie, quelque chose que nous pouvons percevoir, que d'autres personnes à côté de nous ont vu en même temps que nous, et arriver à rendre ça dans une phrase d'une clarté isherwoodienne, et à faire ressortir cet événement-là jusqu'à ce que un des témoins de la scène puisse avoir l'impression de revivre cette scène, c'est une grande joie de style aussi. C'est pas seulement ça nous permet d'avoir une distance avec notre douleur et notre angoisse et notre souffrance, mais c'est le travail même de l'artisan. Il est arrivé à faire vivre cette matière, cette glaise, à lui donner le souffle de vie. C'est Malraux qui disait cela. Nous ne sommes pas, l'artiste n'est pas le contempteur de Dieu, il en est son rival.
Justement, alors c'est étonnant ce que vous dites à l'instant, Daniel Ferrière, parce que précisément dans ce nouveau livre, Autoportrait de Paris avec chat, c'est entièrement écrit, dessiné, même parfois tellement écrit, puisque c'est manuscrit, que c'est parfois difficile même de vous lire, même physiquement, de déchiffrer quand c'est écrit tout petit, etc.
Tout n'est pas fait pour être lu, tout n'est pas fait pour être lu. Une chose écrite à la main, il ne faut pas être capable de
tout
lire
vous-même, hein.
Pour que vous acceptez que c'est une chose écrite à la main.
Et vous le dites vous-même que vous n'arrivez, vous, parfois, pas à vous relire vous-même, alors que c'est votre propre écriture.
Bien sûr, mais ce n'est pas grave, parce que l'idée est tellement forte que c'est écrit à la main, que le lecteur le sent. Il dit, je n'arrive pas à lire, donc c'était pas prémédité, c'est pas une phrase, tout n'est pas convenu, bien arrangé, et ce n'est pas réécrit. Et c'est pour ça que tout ne peut pas être lu.
Mais alors, qu'est-ce qui vous a fait vous décider? Vous dites, j'ai jamais été aussi libre dans ma vie d'écrivain. Il y a une scène extrêmement drôle avec votre éditeur, où il vous dit, alors, est-ce que t'écris le livre que t'as prévu de faire? Et vous dites, bah non, en fait, ce livre-là, je l'écris pas, parce que ce que je fais, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Et il vous répond, et alors ça marche? C'est la question.
Oui, c'est toujours ça. Mais c'est une joie de faire quelque chose, on a l'impression que c'est neuf, que ça n'a pas été fait, et que ce soit une chose très simple aussi. Généralement, c'est toujours un peu compliqué quand on essaie d'être original. Mais là, c'est tout à fait simple. Tous les enfants font ça. Ils écrivent et font des dessins en même temps sur leurs feuilles. Et c'est un jeu, c'est un terrain de jeu. Et vous pouvez pas savoir ce sentiment de faire un dessin qui marche avec son tremblé d'émotion. Et brusquement, ce n'est pas le bon visage, mais Malraux est reconnaissable.
Hemingway aussi. Il y a plein d'écrivains.
Oui, parce qu'il est reconnaissable, parce que la force que j'ai mis pour dire que c'est Malraux, de toute façon, j'ai pas pris de chance, j'écris Malraux à chaque fois à côté. J'écris Hemingway, parce que l'idée n'est pas de bien faire Malraux ou bien faire Hemingway, mais de faire apparaître Malraux et de faire apparaître Hemingway.
Hemingway ressemble à Armistead Maupin un peu plus jeune quand il arrive à San Francisco. Il est très queer, hein. C'est un Hemingway très queer, hein. Donc vous auriez pu lire Hemingway finalement pour vous. Voilà.
queer mais... Hemingway may be redundant.
Oui,
exactement. Hemingway queer, en fait, c'est peut-être une redondance.
C'est peut-être une piste à explorer. Mais alors, vous parliez d'enfance, Dany Laferrière, d'esprit d'enfance. Vous le dites hein, à la fin du livre, c'est à la fois très sophistiqué ce livre. Vous citez Cocteau qui disait que l'écriture n'était que du dessin organisé. Et en même temps, vous dites, j'ai voulu faire non pas un livre d'académicien, mais un livre, un retour vers l'enfance de l'art. Est-ce que ce livre est, comme l'affaire Mystère de Maupin, une sorte de récit autobiographique de tout ce que vous aimez, de vos souvenirs à Petit Goave avec votre grand-mère qui préparait le café et que pendant que vous regardiez les libellules et les fourmis et que vous gorgiez des parfums d'Haïti? Ou est-ce que c'est pas aussi une profession de foi contre la vitesse de l'époque, contre le fait que plus personne... n'écrive à la main, précisément.
Oui, ça c'est vrai. Et ça c'est un cadeau de l'Académie. Ouais, ouais. À l'Académie, on écrit à la main, on envoie des lettres écrites à la main, et nous sommes de vieux monsieur et de vieilles dames, et nous prenons notre temps, nous avons du temps, c'est ce temps lent que j'ai voulu, et à chaque fois que quelqu'un prend le livre, la première chose qu'il dit, est-ce que je vais pouvoir le lire? Pas parce que c'est difficile à lire, est-ce que j'aurai assez de temps pour le lire? Et je pense que c'est ce que le livre vient dire. Vous aurez le temps que vous prendrez pour le lire. Et vous pouvez le laisser là, vous pouvez le reprendre, vous pouvez l'ouvrir quand vous voulez. Mais c'est ça pour moi un livre, c'est un cheminement.
Vous dites une chose qui peut paraître aussi étrange quand on voit justement votre parcours d'écrivain. D'ailleurs, ça, vous le commentez, du même auteur, parce que du même auteur est écrit, je vous montre ça, à la main aussi. C'est-à-dire tous les titres, il a recopié à la main. Et il y a un petit commentaire à la marge. Tu as écrit tout ça, mon vieux? J'en suis le premier étonné. Et
c'est vrai.
Et on lit ça. Et puis on vous lit page 168, il y a quelque chose que je n'ai jamais trouvé dans l'écriture et que le dessin m'offre comme une fleur, le présent. Même un visage mal dessiné vous regarde du fond de la poubelle. Et on se dit, quoi, finalement, le présent est plus fort. Dans l'écriture, vous n'avez pas trouvé ça, en fait, ce présent, cette sensation.
C'est mon obsession dès le début, c'est-à-dire trouver le présent, le chaud présent de l'indicatif. Et je voulais le toucher et à chaque fois il m'échappait et je ne sais pas pourquoi un dessin maladroit me semble plus présent qu'un dessin bien fait. Un dessin bien fait suppose tout le temps qu'on a pris pour le faire. Le regard s'arrête admiratif pour admirer ce temps du travail, alors que le dessin maladroit suppose une rapidité. Et donc, c'est le très rapide, sans chichi, et qui va directement à l'essentiel. On se dit, quel pouvoir a cette personne pour se permettre de dessiner aussi mal? Ben voilà.
Alors, à la fin du livre, il y a un passage qui m'a étonné, Dany Laferrière. Donc, il y a un personnage qui vient vous voir, une sorte de jeune fille au costume très étrange, et qui vous dit, prenez au moins vos responsabilités, admettez que vous n'êtes plus l'auteur de ce sulfureux premier roman qui m'avait atteint au plexus. Et évidemment, elle parle de comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans ce livre, on en a parlé avec Armistice Maupin, dans cette veine autobiographique, au fond, le constat qu'on est, à mesure des livres qu'on fait, plus le même écrivain qu'on était au départ? Et est-ce que maintenant, le Dany Laferrière qu'on va lire a abandonné ces questions de négritude, cette violence parfois qu'il y avait dans vos livres? Je cite « Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer ?»« Je voulais sortir du rang en écrivant « Comment faire l'amour ?»« Je n'ai pas dit que je ne voulais pas aborder la question raciale, je rêvais de l'aborder en esquivant la propagande. » Dire le mot nègre si souvent qu'il devienne familier et perde tout son souffle, me vautrer là-dedans, me rouler dans le racisme, devenir en quelque sorte le nègre comme le Christ a été l'homme. Maintenant, c'est un autre Dany Laferrière, c'est plus celui de cette veine-là.
Oh, vous savez, c'est une coquetterie. Et les écrivains, ils font ça, ils mettent dans le livre les gens qui les contredisent. Et pour mettre ça, il faut qu'ils se sentent précisément dans la liberté du premier roman. Et précisément, je pense que ce dernier livre est plus libre que mon premier roman. Mon premier roman, même s'il était libre, il était libre de la liberté que nous donne l'obscurité. J'étais quelqu'un que personne ne connaissait à Montréal. J'écrivais dans cette liberté-là. Mais la liberté sous la lumière est encore plus forte. Je sais que tout le monde m'attend. Le premier livre écrit après l'Académie française, on vous attend et on voudrait que ce soit un livre avec toutes les harmoniques et toute l'orchestration. Et puis je décide de faire un livre totalement libre. Je le trouve encore plus subversif dans ce cas-là. La liberté sous la lumière est plus subversive que celle sous l'obscurité.
Vous êtes d'accord avec ça, Armistead Maupin, vous qui êtes immensément connu, planétairement connu? Il y a eu un moment où vous ne l'étiez pas. Est-ce que la liberté sous la lumière est encore plus forte?
Je crois que je m'inquiète davantage aujourd'hui avec la célébrité. En fait, j'ai plus, je me regarde plus faire. En fait, je m'inquiète davantage de ce que les gens pensent.
Donc, ça vous rend moins libre finalement.
Et le défi, c'est de continuer justement à relever des défis.
Donc, contrairement à Daniela Ferrière, ça vous rendrait plutôt moins libre.
Donc, moi, je mettrai pas nègre dans mon prochain titre, hein, néanmoins, mais. Je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas ce droit et d'ailleurs, il ne faut pas que je l'aie.
Ah non, je n'ai pas dit que la lumière me rendait plus libre. J'ai dit se libérer sous les feux des projecteurs, et c'est quelque chose de plus subversif qu'un jeune homme qui arrive sur la scène et saute tout nu. C'est sauter tout nu maintenant.
Ah bah, c'est
déjà
c'est,
avec c'est un le défi. Passage du temps.
C'est un défi. Daniela Ferrière ne sautera pas tout nu, mais en revanche va nous se mettre un peu plus à nu avec son choix musical. Vous avez choisi Django Reinhardt, Django's Tiger. Pourquoi ce choix musical, Daniela Ferrière?
Mais Django Reinhardt, c'est un musicien exceptionnel qui occupe, je crois, que 6 pages de ce livre où j'ai parlé pas assez des musiciens. Donc je pense qu'il m'a habité pendant ce temps-là un moment.
Merci beaucoup, Daniela Ferrière. Merci beaucoup, Armistead Maupin.
Nous sommes nus tous les deux maintenant, voilà. D'ailleurs. Mais comme c'est la radio, donc c'est juste pour le public qui est ici. Dani et moi sommes tous les deux nus sur le plateau.
Voilà, plaisir de l'oreille. Et seulement Armistead Maupin, chronique de San Francisco, tome 3 qui paraît aux éditions de l'Olivier. Et c'est traduit de l'anglais par Michel Albaret Match et Bernard Cohen. Et puis ce récit de jeunesse aussi, Mon autre famille, traduit par Marc Anfreville, c'est aussi à l'Olivier. Daniela Ferrière, autoportrait de Paris avec chat, ce livre entièrement écrit et dessiné à la main. Voilà, il faut le dire comme ça. Merci à tous les deux. Merci à Marguerite Capelle qui vous a interprété Armistead Maupin. Le temps des écrivains, c'était en public et c'est avec Avril Ventura, Yasmine Caraï, Anne-Laure Chanel, chargée de production, Franck Malabry, à la technique aussi Alexandre Martin, Yvan Turc, Gilles Manet. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter de manière illimitée sur franceculture.fr 7 heures avec Armistead Maupin et Dani Laferrière.